Je vous propose de vous incliner dans la prière. Seigneur, maintenant nous voulons vraiment te demander d'ouvrir nos cœurs pour que ta parole puisse y pénétrer et nous dire ce que tu as à nous dire à chacun ce matin. Amen. Et je vous propose de commencer en lisant dans le psaume 112. C'est un psaume, donc ça commence par louer l'Éternel, mais c'est ce qui est après qui m'intéresse. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera vaillante dans le pays. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa main des biens et des richesses, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait grâce, qui est compatissant et juste. Il est bon qu'un homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires d'après le droit, il ne chancellera jamais. Le souvenir du juste dure toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est inébranlable, il n'a pas de crainte. À la fin, sa vue s'arrêtera sur ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. Sa puissance s'élève avec gloire. Heureux l'homme, beatus vir, en latin. C'est un psaume magnifique qui a été repris, qui a été mis en musique par à peu près tout ce que le monde a connu, l'histoire a connu de musiciens célèbres. Vivaldi, Monteverdi, Mozart, ils ont tous mis en musique ce psaume. J'invite à aller sur Deezer ou je sais pas quoi, et puis à chercher ces musiques qui sont très belles. Heureux l'homme. Après avoir entendu ce qu'on a entendu ce matin, on est créé par un Dieu qui a un plan. Son plan, c'est quoi faire pour être heureux. Dans ce psaume, c'est des choses très concrètes. C'est faire la justice, c'est donner aux pauvres, c'est faire des largesses. Il s'agit de gestes pratiques. Et donc, ce qu'on voit ce matin, c'est que nous sommes invités à avoir une implication de ce que nous croyons dans une vie, dans tout ce qu'il y a de plus concret, avec, au début, heureux l'homme qui trouve un grand plaisir à ses commandements, voilà la base, voilà le fondement, et puis un peu plus loin, on avait ce verset qui disait « Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, voilà l'engagement, voilà le pas de la foi. » Et entre ces deux éléments importants, la base sur laquelle nous appuyons, et l'engagement que nous prenons de nous appuyer dessus, il y a toute notre vie. Et toute notre vie est faite d'éléments très concrets. Alors un autre psaume démarre avec les mêmes mots. C'est le premier psaume. Ce n'est pas le seul d'ailleurs. Il y a une dizaine de psaumes qui commencent par « Heureux l'homme » ou qui contiennent cette phrase « Heureux l'homme » plus une dizaine d'autres qui commencent par « Heureux celui qui » ou « Heureux ceux qui ». Donc ça fait une vingtaine de psaumes dans lesquels on trouve cette phrase. Dans le premier psaume, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit. » Le bonheur, le fait d'être heureux, je crois que ça fait vraiment partie, et c'est vraiment ce que la Bible nous dévoile, page après page. C'est là le plan de Dieu pour l'humanité, malgré le péché, malgré ce qui crée parfois une séparation. Dieu veut notre bonheur. Alors, c'est quoi être heureux? Chacun a sans doute sa définition, d'ailleurs. Si on cherchait un peu, là, on verrait sans doute des différences. À notre époque et dans notre environnement habituel, être heureux, c'est souvent connoté avec avoir. J'ai de l'argent. J'ai le grand amour. J'ai une situation. J'ai, etc. Le bonheur est souvent lié à ce que j'ai, ce que je possède. J'ai un contrat qui m'offre un salaire de 18 millions d'euros pour aller jouer au ballon dans je ne sais quel club de foot. Bon, pardon pour les amateurs de foot, mais je trouve que ça fait beaucoup quand même. 18 millions d'euros par an, à 18 ans. qu'est-ce qu'il va pouvoir rêver de plus, ce jeune homme, pour avoir le bonheur? Quand on a pendant... Alors bon, on me dit, mon fils m'a dit, ouais, mais tu comprends rien, à 35 ans, il arrête, donc il faut bien. Oui, d'accord, mais bon. À 18 millions d'euros, il en aura normalement, même en un an, il en a mis un peu de côté quand même. Bon. Mais quand il aura acheté ses 3 Ferrari, remarque. Bon. Mais voilà, le bonheur, je tacle un peu moi aussi les footballeurs. Le bonheur, c'est souvent ce que j'ai. L'exemple de l'argent est peut-être symbolique, mais pensons à tout ce qui nous paraît important pour être heureux. Dans la Bible, dans ce psaume, dans ces psaumes, les deux que l'on a vus en particulier, être heureux, c'est être, et ensuite c'est faire. C'est pas avoir, c'est pas d'abord avoir. Éventuellement, avoir viendra en plus, et on pourra le considérer comme une partie de notre bonheur. Mais d'abord, être au bon endroit. Comme on l'a vu dans ce psaume 1, par antithèse, ils nous disent ce qu'il ne faut pas faire. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, hein, marcher avec, c'est accompagner un bout de chemin, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, s'arrêter, là on commence à choisir son camp, on choisit avec qui on va passer du temps, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, on s'assied, là on fait partie de la troupe et on est là. Hein, c'est ce qui nous est demandé, c'est d'être au bon endroit, d'être là où Dieu nous veut. Faisons attention parce que certains choix que nous faisons peuvent nous entraîner parfois. Les choix que nous faisons dans notre façon d'être au monde peuvent nous entraîner parfois, bien plus loin que nous penserions. On peut citer l'exemple de Lot. Lot, le neveu d'Abraham, ils vont avec ensemble et puis ils deviennent riches. C'est dans la Genèse, entre les chapitres 13 et 19. Ils deviennent riches, tous les deux, leurs troupeaux grandissent et puis bon, c'est quand même un pays où on n'a pas beaucoup d'eau. Donc on commence à se bagarrer pour savoir qui peut passer le premier, aller chercher de l'eau dans les puits, etc. Et donc ils proposent de se séparer. Et Lot choisit la plaine fertile. En ça, il n'avait pas... C'est pas grave, personne ne lui en veut. Mais ce qu'on voit, c'est que petit à petit, il s'est approché de la ville de Sodome, hein, et il a été entraîné vers le mal. Parce que peut-être il avait commencé à faire des mauvais choix. Être au bon endroit, être dans une bonne attitude. Le psaume 112, comme le psaume 1, nous invite à être dans cette attitude de réception de la parole de Dieu. On ne comprend pas tout, même dans ce qui nous a été dit tout à l'heure sur la création, on ne comprend pas tout. Mais est-ce que nous sommes dans une attitude de recevoir ça comme la parole de Dieu, la méditer jour et nuit? Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et puis pour être heureux, il y a être au bon endroit, être dans une bonne attitude. Et puis après, il y a notre vie de tous les jours. Et là, il s'agit de faire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a vu dans le psaume 112 qu'il y avait un certain nombre de points qui étaient montrés. Faire la justice, c'est quoi la justice? Faire du bien, c'est quoi faire du bien? Et là, dans le psaume 1er, il nous est dit que celui qui... Et dans cette attitude de cœur, est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Comme un arbre qui porte du fruit. Porter du fruit. Alors, je ne savais pas, quand j'ai préparé ça, que Sophie allait nous balader dans la Genèse. Mais cela rappelle un certain nombre de textes qu'on trouve dans Genèse 1, dans cet ordre créationnel. Dans ce récit plein d'images, la Bible nous raconte, dans les premiers chapitres de la Genèse, la Bible nous dit bien plus que simplement le modus operandi de la création, premier jour, deuxième jour, etc. Elle nous donne des clés sur le plan de Dieu pour nous. Et la première clé, c'est que Dieu est à l'origine de toutes choses. Et Sophie nous l'a bien rappelé tout à l'heure. Et alors en particulier, si on lit... Genèse au chapitre 1er, déjà au verset 11, quand Dieu crée la verdure, que la terre se couvre de verdure, d'herbes, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leur espèce. Et puis un peu plus loin, au verset 22, Dieu les bénit en disant « portez du fruit », il s'agit des oiseaux et des poissons, donc les animaux, le début des espèces animales. Portez du fruit, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers. On porte du fruit également. Et puis enfin, au verset 28, après avoir créé tout cela, Dieu fait l'homme à son image. Et verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, c'est-à-dire portez du fruit. Portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. On a une espèce d'évolution comme ça entre la nature végétale, puis les animaux, qui ont quand même un plan de reproduction pour peupler la terre, et puis l'homme ou la femme, l'homme et la femme, qui ont cette dimension de porter du fruit et d'aller jusqu'à dominer ou être, soumettre la terre. Alors le mot grec pour soumettre là, alors bon, on va pas rentrer dans des discussions écolo, etc. C'est pas mon style, hein, puis c'est pas le lieu non plus, à vrai dire. Mais je laisserai ça à d'autres plus jeunes que moi. Mais le mot qui est utilisé a été traduit dans la Bible grecque, la Bible à 70, par un mot qui veut dire se comporter comme un seigneur par rapport à la terre. Katakurie, je sais pas quoi. Enfin bon, c'est du grec, et ça veut dire se comporter comme un seigneur. Alors un seigneur, on y met des images négatives, mais ça peut être aussi celui qui produit la vie, qui la propage, qui l'entretient. Et c'est comme ça qu'on est appelé à compléter le plan de Dieu dans nos actions. Porter du fruit, comme les oiseaux, comme les poissons, comme les arbres, pas seulement, plus que ça, parce que, en quelque sorte, l'homme est appelé à être le collaborateur de Dieu sur cette terre, pour répandre cette parole, pour apprendre à aimer ce que Dieu nous donne. En quelque sorte, partager avec Dieu la charge de conduire le monde. Du fruit qui concerne notre vie entière, les pensées, nos paroles, nos actes. Du fruit qui se multiplie, qui se répand, parce que c'est ainsi que nous serons heureux, pour revenir à notre thème du début. On ne sera pas juste heureux parce qu'on a quelque chose en plus que les autres, mais on sera heureux parce qu'on est à l'œuvre, là où Dieu nous veut, dans son plan, pour produire des fruits en nous, autour de nous, chez les autres. Et c'est ce que la Bible nous enseigne, je crois, de la première à la dernière page. Par exemple, dans son épître aux Colossiens, l'apôtre Paul va reprendre ces phrases ou des mots qui sont tirés de la Genèse, en quelque sorte, et il applique ça à la progression de l'Évangile. Colossiens 1, verset 6, « L'Évangile est parvenu chez vous, et il porte des fruits, et il se multiplie dans le monde entier. » On retrouve presque les mêmes mots que dans la Genèse. Portez du fruit et multipliez-vous. L'Évangile porte du fruit et il se multiplie dans le monde entier. Et puis un peu plus loin, au verset 10, il invite ses lecteurs, les gens de Colosse, les Colossiens, marchez d'une manière digne du Seigneur, portez des fruits et multipliez-vous dans la connaissance de Dieu. Et on retrouve ces termes, le plan de Dieu pour nous, c'est de porter du fruit et de croître et de grandir dans sa connaissance, de grandir en nous rapprochant de lui. Et quand je disais que c'est ce que la Bible nous dit de la première à la dernière page, de presque la dernière page dans l'Apocalypse, au chapitre 22, il nous est fait mention de cette vision de l'arbre de vie au milieu de la place, se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes, il donne son fruit chaque mois. Jusqu'à la fin, il est question de porter du fruit. Et là, au début, c'était un arbre, il porte du fruit dans sa saison. Et là, il s'agit, quand une fois que tout sera accompli de façon parfaite dans le royaume de Dieu, c'est un arbre qui porte du fruit chaque mois. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Il y en a qui font la moule. Je demanderai à Robert s'il a des trucs pour faire des fruits chaque mois. Et voilà, c'est une vision merveilleuse, simplement, pour dire que ce qui est important, c'est le fruit qui va être porté. Et alors, on l'a vu tout à l'heure, un arbre ne portera du fruit que s'il est bien planté. Heureux, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. L'important, c'est d'être planté au bon endroit. Et à ce moment-là, oui, on pourra donner du fruit en son temps, en sa saison. C'est un long chemin. L'image de l'arbre est importante pour nous. Ça ne vient pas comme ça tout seul. On apprend à vivre selon la volonté de Dieu. On apprend jour après jour. On fait des erreurs, on se trompe, et puis on se corrige, Et puis on fait d'autres erreurs, et puis on se corrige à nouveau. Et puis on progresse comme ça, on grandit, et le fruit arrive. Un arbre, il a besoin d'être entretenu. Il a besoin d'abord d'avoir des racines au bon endroit. Et puis il a besoin qu'on fasse un certain nombre de choses hein, pour que ça pousse. Enfin, vous demanderez aux spécialistes, je ne m'aventure pas sur ce terrain. Je sens que je vais dire des choses qui ne seront pas bonnes. Alors, restons-en là. Mais, hein ? Il doit être éprouvé. Donc il faut qu'il connaisse l'hiver, par exemple. Il faut qu'on lui coupe les branches qui ne vont pas bien. Il faut... Tout ça est important, porter du fruit. Et alors ce fruit, c'est quoi ? Parce que c'est ça qu'on se demande après. Concrètement, ça veut dire quoi, porter du fruit ? Dans ma vie, je ne vais pas porter des corbeilles de fruits, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas, pas de ça qu'il s'agit. Quelques textes qui nous éclairent un peu. Dans les Éphésiens, au chapitre 5, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Voilà ce que nous sommes appelés à porter dans nos vies, dans les gestes de tous les jours, avec nos voisins, avec nos copains, avec nos ennemis aussi, avec ceux avec qui on est amené à vivre. Le fruit de la lumière, c'est donc bonté, justice, vérité. Dans l'épître de Jacques, un autre verset qui nous parle de ça, Jacques 3, 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Ça aussi, c'est des choses qui doivent nous marquer. Comment est-ce que ma vie transpire la paix, si j'ose dire ? Est-ce que je suis en bagarre tout le temps avec tout le monde ? Est-ce que je suis tout le temps en train de vouloir faire valoir mes droits ? Est-ce que ma vie ressemble à un combat permanent ? Ou est-ce que je suis une personne de paix, qui porte la paix, qui rayonne la paix ? Alors, le fruit de la justice sera porté en moi. Mais avant que nous ayons appris cela, avant que nous ayons appris à pratiquer la miséricorde, à vivre en paix, il peut se passer du temps. Et il nous est parlé d'un arbre qui porte son fruit en sa saison ou en son temps. Donc, il faut aussi admettre que certains autour de nous, nos enfants, des gens qu'on connaît, ne portent pas le fruit qu'on aimerait. Sachons les confier à notre Dieu qui les a pris par la main et qui est en train de leur faire ce chemin pour que le fruit finisse par venir, le fruit qui correspondra à leur vie. Bien sûr, on ne peut pas parler de porter du fruit sans citer le texte de l'Épître aux Galates. Il faudra que je rachète une autre Bible. Si vous voulez me faire un cadeau, il faut me racheter une Bible. Et les pages qui tombent. Galates 5, 22, je pense que beaucoup le connaissent par cœur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Tiens, la joie, c'est un fruit. Être heureux, c'est un fruit qui vient en nous parce qu'on arrive à s'accrocher aux choses importantes et pas se laisser bouffer tout le temps par ce qui est désagréable dans la vie, parce qu'il y a des choses qui sont moins agréables que d'autres. On prend un PV parce qu'on roule trop vite, tiens, voilà, c'est pas agréable. Hein. La paix, j'en ai parlé. La patience. C'est embêtant, ça. On n'est pas toujours patient. Enfin, jusqu'à un certain point, quoi. Hein, puis après, ça s'arrête. Et pourtant, le fruit vient en son temps, donc il faut de la patience. La bonté, ça a plein de sens, hein, ça veut dire plein de choses. On ne peut pas dire qu'on est des gnangnans, non, c'est pas ça. La bonté, c'est-à-dire considérer l'autre comme étant aussi une créature de Dieu qui mérite qu'on s'occupe de lui. La bonté, c'est ça, c'est avoir du plaisir à vivre avec un autre, même s'il est casse-pied, même s'il nous raconte des trucs qui ne nous intéressent pas. La bienveillance, vouloir le bien des autres. Est-ce que nous voulons le bien de tout le monde ? Est-ce que ça ne nous arrive pas à dire « Oh, celui-là, ce serait bien qu'il dégage, j'en ai marre hein ?» Ça arrive ? Eh ben non. Il faut apprendre. C'est difficile parfois. Et c'est vrai dans notre entourage proche, mais c'est vrai aussi de certaines réflexions qu'on peut avoir peut-être sur des personnes plus lointaines. Hein. Comment il s'appelle, le patron de la Corée du Nord ? « Ouais, il faudrait bien qu'il disparaisse, celui-là » Parce que, ouais. Même si c'est vrai, mais enfin bon, ça, hein. Apprendre la bonté, apprendre la bienveillance, la fidélité. On a parlé tout à l'heure de mettre sa confiance dans le Seigneur. Donc la fidélité qu'on a envers Dieu, elle doit aussi se traduire vis-à-vis des gens qui sont autour de nous. Nous avons une parole. Est-ce que notre parole est fiable ? Est-ce que nous sommes fidèles à ce que nous avons dit ? La douceur. Dans les mots qu'on dit, c'est pour moi ça, parce que je parais que je suis un peu carré des fois, dans la façon de parler. Il faut apprendre aussi à arrondir les angles. Voilà, ça aussi, c'est pas facile, il faut se limer les dents un petit peu, c'est pas très simple. La maîtrise de soi, ben ça revient un petit peu à la même chose. Toutes ces choses-là, je crois que ça mériterait de méditer sur chacun de ces termes, puis de regarder toutes les traductions qui ont été données, puis de s'en faire une idée un peu large. Porter du fruit. Nous sommes tous appelés à porter du fruit. Je ne suis pas appelé à porter le même fruit que Sophie, qui n'est pas appelé à porter le même fruit que quelqu'un d'autre, peu importe qui. Chacun est appelé à porter du fruit dans sa vie. Tout arbre bon porte du bon fruit, disait Jésus. Et les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Et on reconnaît la qualité aux fruits qui sont portés. Et pour donner encore quelques clés sur ce qui me paraît être le secret du bonheur, pour être heureux, d'après la Bible, pour aller dans le sens de ce qu'on a lu en commençant, je voudrais lire un assez long passage du chapitre 15 de l'évangile de Jean. Je suis le cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Il faut qu'il souffre, c'est ça que tu as dit, non, non. Qu'il subisse. Mais le texte continue, demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. C'est le projet de Dieu pour nous, que nous portions du fruit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi, dit Jésus à ses disciples, et donc à nous, quelques 20 siècles plus tard, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Et puis un peu plus tard, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et oui, parce que nous tout seuls, on n'y arrivera pas. Et on avait besoin que Dieu nous donne ce Saint-Esprit pour nous aider à porter du fruit, pour nous aider à marcher et à aller vers ce bonheur. Alors voilà un petit peu ce que je voulais vous proposer. On est un peu dans un temps de rentrée. Voilà, on est en train de fermer la parenthèse des vacances pour ceux qui ont pris des vacances. De se reprogrammer pour rattaquer une année. Hein. Les profs sont fébriles, là, parce que dans une semaine, ils vont retourner à l'école, etc. Enfin, tout le monde prépare ses cartes. Les jeunes préparent leurs affaires, leurs cartables, leurs crayons, leurs je ne sais pas ce qu'il faut. Tout ça. Rappelons-nous que la Bible est en quelque sorte un traité du bonheur. Le plan de Dieu pour nous, c'est d'être que nous soyons heureux. C'est que nous fassions des choses, c'est que, etc. Mais c'est d'abord que nous puissions vivre heureux parce que nous sommes créés à son image et parce que nous allons essayer de porter du fruit. Le Saint-Esprit nous aidera à porter du fruit. L'Esprit Saint en nous nous aidera à choisir à certains moments quels mots il faut dire pour être plein de cette douceur. Le Saint-Esprit nous aidera aussi à faire tel ou tel choix pour éviter de marcher avec les moqueurs, de s'asseoir à la table des pécheurs, etc. Voilà, croyons que nous ne sommes pas tout seuls là-dedans, dans ce combat. La Bible nous montre tout ça, c'est un traité du bonheur. Elle nous éclaire sur la manière dont nous sommes invités à être heureux avec Dieu. Elle le fait surtout par tout un tas de contre-exemples. Si vous lisez l'histoire de la Bible, hein, on montre surtout l'histoire de plein de gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, et puis du coup, leur bonheur s'est arrêté là. Où ça s'est mal passé, où il a fallu qu'il revienne en arrière, où il a fallu qu'il se repente et qu'il change de voie. Et pour bien connaître ça, je pense, et je reviens à ce qu'on lisait dans le psaume 112, et aussi dans le psaume 1 d'ailleurs, un élément important, un secret que je vous invite véritablement à prendre comme mot d'ordre pour cette nouvelle année, c'est de lire la Bible, de plonger vos regards dedans. De vous alimenter, de la manger. Il y a un des prophètes, il lui est demandé de prendre le livre et de le manger pour imager la façon dont il faut se pénétrer véritablement de ce que Dieu a écrit dans sa parole de Dieu. Bien sûr, elle a été écrite par des gens, à des personnes, à des époques bien précises. Elle raconte des histoires bien précises, mais ce qu'il faut voir, comme dans le récit de la Genèse, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut nous traduire. La Bible, ce n'est pas seulement un livre d'histoire. L'important, ce n'est pas de savoir qui était le premier entre David, Salomon et je ne sais pas qui derrière. Ça peut être intéressant sur le plan intellectuel de le savoir. Ce qui est important, c'est de voir comment ces gens ont ou n'ont pas réussi à marcher avec Dieu. Pour quelles raisons ils ont achoppé. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont trompés? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, le ciel s'est ouvert et ils ont vu des choses extraordinaires? Alors, je vous invite véritablement à lire, relire le plus souvent possible la Bible. C'est notre nourriture, c'est là que nous trouvons le plan de Dieu. Vous n'y trouverez pas des solutions à vos problèmes. Si c'est ça que vous cherchez, vous risquez d'être déçu, parce que de toute façon, les problèmes, ça sera à vous de les résoudre. Nous sommes sur cette terre, dans la vie, et ça sera à nous de les résoudre. On n'y trouve pas des trucs pour être heureux plus vite que d'autres, ou plus vite que de telle ou telle manière. La Bible n'est pas un livre comme ça, mais elle raconte l'histoire de tellement de personnes qui ont essayé, raté, réussi dans leur marche avec Dieu et qui ont appris et qui nous apprennent tout cela. Et au travers de cette lecture, petit à petit, parce que ça prend du temps, on apprend à connaître la grandeur de ce plan de Dieu. Paul le dit merveilleusement dans l'épître aux Éphésiens, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi pour que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Cette phrase, elle est belle, elle est poétique, elle nous ouvre des dimensions importantes dans lesquelles nous sommes appelés à rentrer au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur. Et alors nous serons un arbre véritablement planté près du courant d'eau parce que nos racines, elles iront au bon endroit, elles seront irriguées comme il le faut. Il faudra accepter parfois qu'on coupe des branches, qu'on coupe quelques branches qui sont mortes ou qui ne font pas ce qu'il faut. Ça sera les épreuves qui nous arrivent et qui vont nous aider à peut-être changer un peu d'attitude et à retrouver quelques-uns de ces fruits que nous avons peut-être laissés en cours de route. Et alors, notre fruit pourra venir, il sera bon et notre vie pourra véritablement être à la gloire de Dieu. Et je termine avec quelques versets dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 13, le verset 15. « Par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Et un peu plus loin, l'auteur écrit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, toute la Bible nous dit que tu veux notre bonheur, et parfois nous le cherchons bien loin de toi. Nous le cherchons dans des possessions, dans des images, dans quelque chose qui nous semble flatteur. Et toi, tu veux nous prendre par la main, nous faire marcher pas à pas sur le chemin et progressivement apprendre et pouvoir porter du fruit à ta gloire. Seigneur, que nous puissions véritablement avoir ce désir de ne pas lâcher ta main, de ne pas lâcher ta parole, de la lire, de la méditer, jour et nuit, s'il le faut, comme disait le psalmiste, pour que véritablement nous puissions de mieux en mieux comprendre ce que tu attends pour nous, ce que tu attends pour notre bonheur. Merci Seigneur parce que tu es avec nous ce matin, merci parce que tu nous accompagnes et tu vas continuer à vivre avec nous. Nous te remettons aussi tous ceux de notre Église qui ne sont pas là, certains en vacances, d'autres pour d'autres raisons. Que chacun, Seigneur, tu puisses à chacun donner ce dont il a besoin ce matin, pour pouvoir faire un pas de plus avec toi. Amen.